Bonsoir. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a annoncé le week-end dernier la convocation d'un dialogue politique national inclusif. Dans son message à la nation, il a évoqué les sujets à l'ordre du jour. Il s'agit notamment de la problématique du fichier électoral, du calendrier électoral et du financement des élections. Par rapport à ce dernier point, le chef de l'État se demande si on ne peut pas, dès à présent, engager une réflexion sur un système électoral avec les modalités de vote peu coûteuses, comme c'est le cas dans d'autres pays. Comment analyser le discours du président de la République sur le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 30 novembre 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Jean Bouyou, avocat et professeur de droit et les cadres du PPRD, parti de la majorité présidentielle. Maître Bouyou, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Lucien Boussa, député national de l'opposition et président du parti politique Courant démocratique rénovateur, CDR en sigle. Monsieur Boussa, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Pierre Virgence, professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Butembo en RDC. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiorepi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
C'est officiel, le président de la République a décidé de convoquer le dialogue politique national inclusif. Joseph Kabila l'a annoncé le week-end dernier dans un message à la nation diffusé sur la télévision nationale congolaise. Sans donner la date ni le lieu de l'organisation de ces assises, le chef de l'État a affirmé que sa décision fait suite à sa consultation pendant près de 6 mois des acteurs politiques, de la société civile, des institutions de la République et des partenaires. On écoute le président Joseph Kabila dans cet extrait choisi par Lievin Bouinga.
C'est en effet à travers un consensus responsable que nous pourrons donner une chance à la relance de notre processus électoral en lui conférant toutes ses lettres de noblesse, à savoir la conformité aux standards internationaux, notamment sa crédibilité, son inclusivité et surtout son apaisement. C'est aussi à travers cette voie que nous garantirons la stabilité et la paix chèrement acquises avant, pendant et après ce processus, par-delà nos divergences d'opinion. Ainsi, après avoir recueilli vos avis directement et à travers ceux qui ont porté vos préoccupations aux consultations, mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif.
Le chef de l'État a aussi lancé un appel à ceux qui hésitent encore à rejoindre cette voie des négociations pour donner la chance à la relance du processus électoral. Les grandes lignes du discours du président de la République, résumées ici par Lievin Bouinga.
Dans un premier temps, Joseph Kabila explique le pourquoi de cette décision. Pendant 6 mois, dit-il, il a consulté la classe politique, la société civile, l'autorité coutumière et le Congo profond par l'entremise des gouverneurs de province. Il a également consulté les institutions de la République au niveau national et provincial. Objectif, éviter des divergences profondes qui apparaissent sur la scène nationale au point de menacer l'unité nationale. Ces divergences se portent, ajoute-t-il, sur le processus électoral et sa sécurisation. Pour ce dernier cas, Joseph Kabila évoque les troubles qui ont émaillé les élections de 2006 et 2011 avec par exemple l'incendie de la Cour suprême de justice. Dans son message, il se demande d'ailleurs dans quel esprit l'on va aller aux élections. Autre problème, le financement du processus électoral qui impose une réflexion profonde. Il rappelle que la CENI a communiqué un budget de 1 milliard de dollars américains pour l'organisation des élections en RDC. Or, le gouvernement ne peut financer ces scrutins qu'avec un montant de 500 millions de dollars. C'est pourquoi il propose propose de réfléchir sur un système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses. En ce qui concerne le rôle des partenaires, Kabila propose de lever des options ensemble avec ces derniers, car c'est d'abord une affaire de souveraineté, dit-il. Le chef de l'État propose par ailleurs une commodération des tâches avec la facilitation internationale en cas de difficultés majeures. Face donc à toutes ces préoccupations, il a décidé de convoquer le dialogue car il s'impose à nous, déclare Kabila. Il annonce en même temps la création d'un comité chargé de préparer l'organisation de ce dialogue et compte prendre quelques mesures de grâce sans évidemment signifier des dates.
Merci Lievin Mbuinga, maître Jean Bouillou. Je rappelle que vous êtes avocat et professeur de droit. Vous êtes cadre du PPRD, parti politique de la majorité présidentielle. Avant de décortiquer ce discours du chef de l'État, de façon générale, comment vous analysez ce message du président Kabila à la nation?
Merci Madame Kelinkouté. Ce message a été fortement attendu. Attendu d'abord réclamé, ce dialogue réclamé par l'opposition l'année dernière, ensuite peu à peu discuté à des milieux divers, les uns pour, les autres contre, et finalement aujourd'hui il est devenu réalité, il a été convoqué par le chef de l'État. Je pense donc personnellement à d'abord louer cet esprit d'ouverture. Le chef s'est ouvert, après avoir consulté différents milieux pendant pratiquement 5 mois, il a finalement dit, bon écoutez, la tendance va dans ce sens, eh bien, convoquons ce dialogue. Donc cet esprit d'ouverture du chef de l'État, je pense, est un élément essentiel. Au lieu de le refuser, de s'enfermer, de se cabrer, il a dit, bon écoute, tout le monde pense qu'on doit dialoguer, on doit se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, eh bien, allons-y. Je crois que c'est un premier élément important.
Alors, Maître Jean Bouy, dans son message à la nation, le chef de l'État a évoqué les sujets à l'ordre du jour. Commençons par la problématique du fichier électoral. Il dit ceci, ces derniers soulèvent en effet une série d'interrogations sur sa fiabilité et son exclusivité. Comment vous analysez cette phrase du chef de l'État? Est-ce qu'il faut, il veut dire par là que ce fichier électoral que nous avons n'est pas fiable?
C'est d'ailleurs l'argument principal de l'opposition depuis plus d'une année. Plus d'une année, l'opposition dit, nous on ne veut pas aller aux élections parce que ce fichier n'est plus fiable. Eh bien, à un moment donné, la CENI avait dit qu'il n'était pas possible de renouveler ce fichier parce que ça allait coûter du temps et des moyens. Il était donc bien de partir sur l'ancien fichier. Ben, avec le temps, tout le monde a estimé que non, il y a 8 millions de jeunes gens qui sont majeurs depuis lors. On ne peut pas les mettre en dehors de leur rôle politique, leur vocation politique en tant que citoyens. Et donc, à ce niveau-là aussi, le chef a dit, ben écoute, réfléchissons ensemble pour voir comment cela va se faire. Je ne décide pas tout seul qu'ils ne voteront pas ou qu'ils vont voter, mais j'appelle les compatriotes à ce que nous nous mettions ensemble pour dire comment on va le faire. Donc c'est un élément, à mon avis, important aussi.
L'opposition a commencé à dénoncer ça depuis longtemps. Oui. La majorité ne voulait pas en tenir compte. Aujourd'hui, oui. Le chef de l'État, il reconnaît
voilà.
Qu'il y a un problème avec ce fichier électoral. Oui. Ce fichier qui a été utilisé en 2011 pour son élection. Est-ce qu'il faut se poser aussi des questions par rapport à l'élection du président de la République?
Oui, disons, je pense que l'opposition l'a réclamé et j'ai dit l'esprit d'ouverture du chef de l'État fait que bon, finalement, il a dit on y va, discutons au lieu d'imposer. Et je crois que ce fichier concerne non seulement les élections parlementaires, il concerne évidemment les élections présidentielles aussi et à tous les niveaux, je pense.
Alors, par rapport au calendrier électoral, oui. Il faut revoir aussi le calendrier.
Je crois que le comité des Congolais qui vont siéger entre eux, de différentes tendances, va s'occuper de ces questions. Parce que finalement, c'est quand même les Congolais qui déterminent le calendrier. Le chef aurait sûrement amené un débat de plus s'il avait dit « voici le calendrier », ce qui n'est d'ailleurs pas constitutionnellement son rôle. C'est un rôle qui est dévolu à la CENI, mais après des orientations politiques décidées au niveau des acteurs politiques du pays.
Alors, je reprends la phrase du chef de l'État. Il dit ceci, quant au calendrier électoral, il en existe un, certes, voulu global, incluant l'organisation des élections à tous les niveaux. Seulement, il est rendu non opérationnel à ce jour suite aux multiples voix discordantes au sein de la classe politique.
Voilà.
Du côté de l'opposition, tout comme du côté de la majorité.
Sans doute, parce que il y a notamment dans ce calendrier, la question importante des élections à tous les niveaux. Parce qu'on a vu ces derniers temps, l'opposition a commencé à insister sur les élections présidentielles, oui, mais peut-être aussi parlementaires, mais la démocratie dans le pays impose que nous puissions prendre en charge et prendre en compte les élections à partir justement du bas, à partir du peuple à la base. Je crois que ça va être important.
Et donc ta faute revient à la classe politique congolaise.
Pardon ?
La faute revient à la classe politique congolaise qui rend inopérationnel, non opérationnel ce calendrier.
Bon, il y a un ensemble de problèmes et je crois que c'est pour ça qu'il faut les discuter. Il ne faut pas simplement dire, bon, tel aurait pu le faire ou tel n'aurait pas pu le faire. Je crois qu'il faut s'asseoir et dire comment on va le faire entre politiques concernées par justement ces ratés du processus.
Est-ce que cette question nécessite vraiment un dialogue ? La question sur le calendrier, revoir le calendrier.
Bon, attention, les questions politiques nécessitent un débat politique. La CENI est un organe technique. Et donc, je crois qu'il n'y a pas que les dates à fixer. Il y a un ensemble de petits détails qui, vu la complexité de notre pays, qui pourraient demander des clarifications, je pense.
Un autre point évoqué par le chef de l'État, c'est le financement des élections.
Oui.
Alors, le chef de l'État estime qu'il faudra réfléchir sur un système électoral avec les modalités de vote peu coûteuses, comme c'est le cas dans d'autres pays. Qu'est-ce que le chef de l'État veut dire par là ?
C'est un vieux débat et je suis heureux que cette question émerge aujourd'hui. Nous cherchons, avec la CENI et les partenaires, pour les élections passées, 1,2 milliard de dollars proposés, disons, résultant des analyses ou des préparatifs de la CENI. Le chef de l'État, déjà il y a quelques années, avait demandé une révision de ce montant parce qu'il le trouvait excessif. Mais tous les experts de la CENI réunis, congolais comme étrangers, avaient dit: il sera difficile de descendre en dessous de 1,2 milliard, compte tenu de tout ce qui est comme préparatif. Nous nous sommes d'ailleurs évertués à dire non, on peut éliminer certains postes pour descendre ne fût-ce qu'à 800 millions. Parce qu'il n'est pas normal pour un pays qui produit 5 milliards de dollars par an, et qui n'arrive pas à dépasser ce chiffre, malgré les budgets, qu'il consacre 1,2 milliard aux élections. Ne pouvons-nous pas trouver des modalités des élections qui pourront coûter moins cher? Bon, par exemple, lorsqu'on fait du comparé, l'Afrique du Sud dépense 180 millions de dollars pour une élection, le Canada dépense encore moins, et d'autres pays. Pourquoi est-ce que nous, on doit consacrer le milliard qui peut aider au développement uniquement pour une question de processus électoral.
Et là, vous voulez parler du scrutin indirect. Lorsque vous prenez l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple.
Personnellement, ma réflexion personnelle est que, au lieu de faire un suffrage universel direct qui nous coûte 1,5 milliard, ne pouvons-nous pas discuter entre Congolais et trouver un système qui permet à la fois une représentation valable et en même temps aussi une réduction des coûts? D'ailleurs, lorsqu'on interroge la CENI sur le coût, il est essentiellement situé notamment dans les avions alloués pour aller déposer justement ces bulletins de vote, les urnes à gauche et à droite, étant donné les difficultés dans le pays. Alors à ce moment-là, on se dit oui, mais au lieu de procéder à tous les niveaux, pas des élections, du suffrage universel, direct, ainsi de suite, ne pouvons-nous pas trouver un système moins coûteux? Quand j'ai posé cette question quand je l'ai posée au Parlement durant mon mandat, beaucoup avaient dit « Non, nous voulons le suffrage direct !» Mais écoutez, le suffrage direct avec votre argent, pas toujours avec l'argent des autres.
Alors c'est une question qui sera évoquée lors de ce dialogue.
À mon avis, il vaut mieux l'évoquer.
Merci Maître Jean Bouillou. Jean-Lucien Boussa, député national de l'opposition et président du parti politique Courant démocratique rénovateur, CDR en sigle. Comment vous avez accueilli ce discours du chef de l'État, vous qui vous opposez au dialogue?
Madame, vous permettrez que je rappelle à tous les Congolais le paragraphe premier de l'exposé des motifs de notre Constitution, pour que les bases des discussions soient intéressantes. Cet exposé de motifs dit ceci: depuis son indépendance le 30 juin 1960, La République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Je vous fais grâce de tout le reste. Nous devons nous situer dans le contexte politico-militaire, historique qui a prévalu pour que nous ayons cette constitution de la République avec des dispositions responsables. Ça, c'est de un. Maintenant que j'ai suivi le chef de l'État, comme tout le monde, j'aimerais aussi rappeler quelles sont les obligations constitutionnelles du chef de l'État avant d'analyser son discours. L'article 69 de la Constitution dit que le président de la République veille au respect de la Constitution. Premier élément. Deuxième élément, l'article 74 de la Constitution, sur le serment du président de la République. Premier tiret, le serment que le chef d'État prête devant Dieu et la nation. Premier tiret, observer et défendre la Constitution de la République. Deuxième rappel. Troisième rappel, l'article 220 de la Constitution, qui dit clairement qu'il y a des dispositions constitutionnelles intangibles, notamment les dispositions relatives au scrutin, les dispositions relatives à la décentralisation, les dispositions relatives au mandat du président de la République, qui est de 5 ans, renouvelable une seule fois, étant entendu par ailleurs que la Constitution dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct. C'est une question concernée par l'article 220 de la Constitution. Ces rappels sont nécessaires pour nous mettre dans le contexte. Maintenant, lorsque j'ai suivi le chef de l'État, je dois vous avouer que tous ceux qui ont prêté des intentions à l'opposition, qui a dit non au dialogue, parce que suspectant le président de la République de vouloir développer des mécanismes pour se pérenniser au pouvoir, doivent donner raison à l'opposition. Aujourd'hui,
pourquoi
J'en arrive. Le chef de l'État, dans son discours, je retiens deux choses essentielles. La première chose, c'est quand même des contre-vérités que le chef de l'État dit dans son discours. Deux contre-vérités, essentiellement. Lorsque le président de la République se permet d'opposer la démocratie au développement, mon vieux, et à la fin de son mandat, je pense que là, le chef de l'État vient de dire aux Congolais que j'ai échoué complètement. D'une part, je n'ai pas consolidé la démocratie, d'autre part, je n'ai pas réussi le développement. Mais il dit, il faut changer de mode de scrutin. Non, monsieur, c'est le temps de l'alternance pour suggérer une alternative crédible là où vous avez échoué.
Il n'a pas dit, il faut changer,
J'en arrive. Deuxième chose que je retiens, que le chef de l'État dise qu'il faut réfléchir sur un mode de scrutin qui coûterait moins cher à la République.
Et un problème d'argent qui se pose.
Je vais répondre à la question.
Et les élections doivent être organisées.
Et donc là, le chef de l'État ignore superbement son serment qui consiste à pouvoir protéger la Constitution. Sa responsabilité qui consiste à respecter la Constitution. Parce que cette réflexion va l'amener naturellement à violer cette Constitution et le peuple congolais n'en veut pas. Et s'il a violé la Constitution, il s'expose à l'article 165. C'est la haute trahison, madame. C'est la Constitution de la République que le chef de l'État est censé protéger, qu'il est en train à la fois de violer et en train de vouloir violer. Maintenant, je reviens à la question, sa réflexion sur le financement. Mais lorsque le chef de l'État nous parle des 1,3 milliard, mais il doit être clair en disant les 1,3 milliard, c'est des élections sur 5 ans. Si les élections de députés provinciaux étaient organisées en 2012, si les élections municipales, etc., étaient organisées en 2007, parce que c'est sa responsabilité en tant que garant du fonctionnement harmonieux des institutions. Mais il ne faut pas prendre le budget des 5 ans pour en faire un budget d'un exercice. C'est ridicule, d'une part. D'autre part, par rapport aux élections essentielles, je veux dire les élections dont le calendrier est fixé par la Constitution, madame, on n'a pas besoin de dialogue pour ça. La réflexion sur le financement n'a pas besoin de dialogue. C'est le gouvernement de la République qui a la responsabilité.
Monsieur Bimètre Mbouillou, c'est une question politique.
Non,
vous mettre ensemble.
C'est la Constitution de la République. La politique ne doit pas tout justifier et surtout qu'on ne verse pas dans la politicaille. S'il vous plaît. S'agissant du budget de l'État, madame, entre 2012 et 2015, il a été prévu en consolidé plus de 800 milliards de francs congolais, plus ou moins 900 millions de dollars américains. Si le président de la République
sa majorité. La CENI, qui était à Paris à un moment donné, comme les bras séculiers du président de la République, avait été en ordre vis-à-vis des citoyens. Mais on ne peut pas cumuler un budget de 1,3 milliard. Il ne faut pas donner un chiffre en cumulé pour considérer que c'est un chiffre annuel. Par ailleurs, madame, le budget 2015 prévoit plus de 300 millions de dollars pour les élections. Où est parti cet argent? Le budget 2014 avait prévu plus de 250 millions de dollars. Le budget 2013 comme 2012, où est passé cet argent? Ça a été soufflé par qui? Donc la question ne se pose pas en termes de budget. Il y a une volonté manifeste du président Kabila de vouloir remettre en cause l'ordre institutionnel consacré par l'accord global inclusif et inscrit dans la Constitution de la République, que lui est censé, en tant que chef de l'État, conformément à l'article 69 et à son serment, de respecter scrupuleusement. Il n'a ni les droits de penser à violer la Constitution, moins encore il n'a les droits de détourner la Constitution.
Merci.
De ses vrais objectifs.
Merci Monsieur Jean-Lucien Boussa, professeur Pierre Virgence. Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembo en RDC. En RDC, je voulais dire, vous êtes en ligne.
Oui, je suis en ligne, tout à fait, oui.
Alors, professeur, comment vous analysez ce discours du chef de l'État, globalement
Et globalement, d'abord, on peut s'étonner du fait de devoir convoquer un dialogue inclusif, alors qu'il existe des institutions où ce dialogue peut se passer. Dans un pays bien organisé, le dialogue se fait au sein du Parlement, qu'il n'y a pas besoin d'un autre lieu a priori. Et on sait que parfois, pour faciliter les décisions, on prépare des décisions qui doivent être adoptées au Parlement ailleurs. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on supprime le Parlement, je l'espère en tout cas, ou qu'on lui enlève son rôle. D'autre part, dans ce qui a été annoncé, ce qui m'étonne un peu, c'est que on évoque la possibilité d'un autre mode de scrutin moins coûteux. Aux yeux de beaucoup, ça signifie effectivement un scrutin indirect, où il y aurait donc des grands électeurs qui pourraient intervenir directement, eux, dans l'élection du président de la République, et l'électeur de base ne serait que le premier mandant, en quelque sorte, de ces grands électeurs. Mais là, ça pose une grande question, c'est la légitimité de ces grands électeurs. Ces grands électeurs doivent être élus correctement. Or, maintenant, les députés provinciaux ont été élus une seule fois en 2006 et n'ont pas été renouvelés en 2011 par des élections. Leur mandat a été prolongé. C'est la même chose pour les sénateurs qui sont en place depuis 2006. Et donc, on a un système qui est un système qui marche, je dirais, que sur une jambe, puisque c'est juste la Chambre des nationales des députés qui a été réélue. Et là, c'est un autre phénomène qui est important dans la politique congolaise qu'on oublie souvent, c'est que la plupart des députés de la première assemblée n'ont pas été réélus en 2006. Et en 2011, la plupart des députés de 2006 n'ont pas été réélus non plus. Donc les députés actuels ne peuvent pas en 2015 et encore moins en 2016 se prévaloir d'une légitimité électorale. Ils ont eu leur légitimité électorale au début de leur mandat, mais les partis actuels ne peuvent en aucun cas servir à contourner le souverain primaire qui est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a le droit de voter et de remplacer ses dirigeants, notamment les parlementaires, s'ils les estiment trop corrompus ou pas assez compétents. Et c'est bien ce qui s'est passé en 2011 et c'est bien ce qui s'est passé en 2006. Les hommes politiques congolais ne l'ont pas encore compris et on peut se dire effectivement que la légitimité même des partis politiques pour négocier entre eux une modification de la Constitution qui a été approuvée par référendum en 2005, eh bien, cette légitimité est mise à mal. Et donc là, on peut se dire que effectivement, on comprend les mouvements d'humeur dans la population congolaise et on comprend les mouvements d'humeur de la société civile congolaise. Il serait temps au Congo que les institutions républicaines de base soient remises à l'honneur.
Professeur, si on vous comprend bien, je vais essayer de vous résumer, on va essayer de vous résumer. Vous trouvez inopportun la tenue de ce dialogue.
Je trouve que ce dialogue ne peut pas remplacer le système institutionnel d'une part, et d'autre part qu'on ne peut pas priver l'électeur congolais de son droit de vote.
Alors,
il est clair que dans la manière d'apaiser les conflits en 2003, 2004, 2005, 2006, le vote pour le président de la République était fondamental. Et là, je pense qu'on va toucher à quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre politique congolais si les partis se mettent entre eux, les électeurs, et le président de la République.
Alors, les auditeurs sont nombreux à nous écrire et à nous appeler. On va prendre pour vous, professeur Pierre Virgence, cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Kassama, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Le discours du chef de l'État est un discours normal quant à l'intention de vouloir la paix même après les élections. Mais il est revenu sur certaines questions qui sont à la compétence exclusive de la CENI. Et cela ne nécessite pas le dialogue. Quant à la question de mode de scrutin moins coûteux, il serait mieux de le laisser à la prochaine République, c'est-à-dire ceux qui viendront après nous.
Comment vous réagissez à ce point de vue de cet auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga?
Je pense que la première remarque, mais ça, vos intervenants précédents l'ont déjà fait, hein, consistant à dire que la CENI a une fonction définie par une loi qui lui donne son organisation et ses objectifs, et cette CENI doit être respectée. La Commission électorale nationale indépendante a des fonctions précises qui sont bien définies dans la République démocratique du Congo, et il faut respecter cela. Je pense que ça, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait fondamental, et on ne peut pas, dans un dialogue, évoquer la possibilité de suspendre la loi pendant un moment. Si on arrive à un accord et qu'on modifie la loi au Parlement, c'est autre chose. Mais il ne s'agit pas de suspendre la loi simplement parce que les hommes politiques, à un moment donné, ont une idée qui leur passe par la tête. Donc ça, c'est clair que les institutions électorales, les institutions étatiques doivent être respectées. La CENI est une institution et le Parlement est une institution. Sur la deuxième remarque, effectivement, on pourrait se dire que c'est au prochain président à faire avancer la question de l'organisation des élections et d'une nouvelle forme éventuelle d'élection, mais on peut se dire aussi, politiquement, qu'on sait que le Congo, dans l'année 2016, va être un pays qui va affronter, je dirais, les mêmes risques que plusieurs pays en Afrique. On voit ce que ça donne au Burundi, on sait ce qui risque de se produire au Rwanda, on sait, enfin voilà, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et donc, le Congo va affronter une période trouble, et là, il est vrai que c'est, là, le premier intervenant, évidemment, en venant de la majorité présidentielle, l'a souligné, c'est quand même de la responsabilité de cette classe politique-ci,
merci,
celle qui est maintenant en place, d'essayer de faire que ça se passe le mieux possible.
Merci, alors, professeur Pierre. Merci, professeur Pierre Virgence. Parmi les réactions après l'adresse du chef de l'État sous la convocation du dialogue politique, il y a notamment celle du député national Franck Diongo. Dans un point de presse tenu ce lundi à Kinshasa, cet élu déclare ne pas approuver le principe du dialogue. Il parle d'un moyen visant à la modification de la Constitution. On l'écoute au micro de Mimi Ngumba.
La motivation principale du dialogue, c'est le changement de la Constitution. Et le devoir de vérité m'avait commandé de dire cette vérité au peuple congolais. La vérité n'a pas besoin d'être aidée. Comment voulez-vous comprendre que même dans le message du soi-disant dialogue, que le peuple congolais doit stopper, doit combattre et doit arrêter? Il va omettre le point le plus important, mes chers amis, à l'ordre du jour. Le respect de la Constitution et l'organisation des élections dans les délais constitutionnels et l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. La demande nationale, l'urgence nationale, le besoin national, c'est l'organisation des élections présidentielles avant décembre 2016.
C'était là le député Franck Dongo. Maître Mbuyu, vous avez suivi avec moi le député Franck Dongo qui pense que ce dialogue est organisé par le chef de l'État en vue de modifier la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, madame, je ne discute pas sur les supputations. Ici, il y a une propension à supputer. Le chef de l'État, son discours, nous l'avons suivi, il est verbal, il est aujourd'hui écrit dans la presse, il n'évoque rien que cette rencontre sur un certain nombre de points. Et je vous ai dit que ces questions avaient déjà été soulignées précédemment par l'opposition. Alors, je ne vois pas d'où vient l'assertion de Franck Diongo pour dire que le but c'est la modification de la Constitution. Non, on entre dans un domaine de spéculation, on est dans les étoiles et je ne veux pas le suivre là-dedans.
Alors, vous avez tout à l'heure, avant que je ne donne la parole à Jean-Lucien Boussard, vous avez soutenu l'idée d'un scrutin indirect. Vous ne pensez pas que ça serait violer l'article 220 de la Constitution si on procédait à ce scrutin, à ce mode de scrutin?
Non, attention, nous parlons de deux choses différentes. Lorsque le chef de l'État appelle à un dialogue pour discuter un certain nombre de points, il ne modifie pas la Constitution. Parce que, pour suivre la réflexion du professeur qui est intervenu tout à l'heure, nous sommes en train de parler d'un dialogue en vue de débattre certaines questions. Si le chef de l'État voulait agir directement, il pouvait bien dire, ok, je soumets telle question à tel niveau. Mais ces questions ne sont pas soumises au Parlement parce qu'il ne s'agit pas de modifications demandées. Il y a tant de questions qu'on peut également soumettre au Parlement, sans oublier que dans ce Parlement, c'est quand même la majorité qui le tient et qui peut y obtenir beaucoup de décisions. Mais lorsqu'on dit, ok, il y a des décisions qu'on peut avoir à travers le Parlement parce qu'on a la majorité, mais il est bon d'en discuter sur un plan national, à un dialogue qui n'est pas encore l'instance de modification constitutionnelle. Mais d'où vient le mal à ça? D'où vient le mal à ce débat qui réunit des Congolais, sur lesquels on revient sur un certain nombre de questions? Pourquoi est-ce qu'on suppute que non, ce dialogue constitue directement la modification constitutionnelle? Non.
Alors, je vous garde de mettre en bouille pour la réalisation. Je signale qu'on a une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Lisa Kulimu Chevariste depuis la ville de Bukavu, en province du Sud Kivu. Ce questionnement des chefs de l'État sur les modalités de vote peu coûteuse vient de créer plus de soupçons sur l'objectif longtemps caché de ce dialogue. Si bien même le temps le permettrait encore que l'on fasse cette réflexion, je voudrais savoir comment le chef de l'État prétendrait y parvenir sans procéder par la révision constitutionnelle longtemps soupçonnée par l'opposition. Par rapport au coût des élections qu'il prétend minimiser, je souhaiterais que notre chef de l'État se refuse d'appartenir à cet ancien courant de présidents africains qui disent « on n'organise pas les élections pour les perdre » ou simplement ne se presse jamais à les organiser lorsqu'ils sont fin mandat. C'est une honte pour la démocratie en Afrique où sévit la loi de l'effet consistant à ne pas abandonner la voie qui fait gagner malgré ses conséquences néfastes sur l'avenir de toute une nation.
Réaction, Maître Mbuyu.
Oui, je pense qu'il ne faut pas prendre un État comme une petite famille. Un certain nombre de grandes décisions dans un État se discutent entre politiques et se construisent dans le temps. Il y a des modifications, des attitudes, des orientations qui viennent à la suite de plusieurs discussions, de plusieurs écrits, des académiciens, des réactions de la population, à la suite d'un débat national. Donc il est bon de savoir que, même s'il y a des choses qui sont prévues dans une constitution, mais au fur et à mesure des années changent, il y a des amendements, comme à la constitution américaine, il y a des amendements, il y a des ajouts, il y a des retraits. Ce n'est pas interdit dans la vie d'une nation, et c'est la nation elle-même qui apprécie selon le temps, selon les événements. Et il ne faut pas penser qu'on va être figé parce qu'il y a une constitution, alors on ne va plus rien faire d'autre en dehors de la constitution. Non, il faut pas.
Merci, Maître Jean Bouillot. Jean-Lucien Boussa, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.
Serge Mapendano, depuis Lubumbashi. Je trouve ce discours sage et apaisant. Ainsi, je souhaite que toutes les forces sociopolitiques de notre République répondent favorablement à cet appel au dialogue qui soient adoptés au finish des compromis qui vont respecter scrupuleusement et protéger notre constitution, notamment dans ses dispositions intangibles, ce qui est gage de la consolidation de la paix dans notre pays.
Jean-Lucien Boussa, il faut aller au dialogue, discuter et trouver des compromis, au lieu d'être catégorique avant même d'assister ou de prendre part aux travaux que le chef de l'État convoque.
Mais on est ferme sur le consensus dégagé dans la Constitution de la République, écoulé sous forme de loi fondamentale, madame. Notre Constitution a pris toutes les précautions d'usage. Aussi pour éviter un président de la République, quel qu'il soit, de se comporter comme à l'époque du parti État. Est-ce que nous ne voulons pas, c'est la dérive totalitaire. Madame, un chef de l'État ne spécule pas, il gère. Les questions qui sont soulevées, pour qu'il donne le prétexte au président de la République de pouvoir appeler les gens au dialogue. Je rappelle que mon parti politique, le CDR, la dynamique de l'opposition, aujourd'hui la dynamique de l'opposition et le G7 ont réaffirmé leur non au dialogue, leur non à un recul démocratique, leur non au changement de la Constitution. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est des préalables pour modifier, changer la Constitution, je veux dire. Donc, le chef de l'État, c'est la question du fichier électoral, madame. Vous avez appris qu'il y a eu un audit externe de l'OIF. Cette question relève de la responsabilité de la CENI. Mais madame, en 2005, lorsque nous sommes allés à l'enrôlement, première expérience de la RDC, on a passé combien de temps? Madame, pour qu'on dise aujourd'hui, après l'audit de l'OIF, qu'on n'est pas capable de fiabiliser l'audit électoral, plutôt fiabiliser le fichier électoral, et donc la CENI n'a pas des compétences intérieures ou internes pour pouvoir résoudre ces problèmes. Deuxièmement, la question du calendrier. S'agissant de l'élection du président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, c'est constitutionnel, on n'a pas besoin d'un dialogue. Pour le reste, l'élection des députés provinciaux a été programmée le 25 octobre, pourquoi on n'a pas organisé? C'est la mauvaise volonté politique, c'est la logique du chaos pour justifier le dialogue, madame. Troisième élément, la question du financement, c'est de la responsabilité du gouvernement. Madame, vous avez appris lors de la reddition des comptes que le gouvernement de la République a dépensé 1 milliard de dollars hors budget. Dans un pays où on a dépensé 1 milliard de dollars hors budget, le chef de l'État n'a pas sanctionné, sa majorité au Parlement n'a pas sanctionné le mauvais gestionnaire, le même président vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Où est-ce qu'on a trouvé les 1 milliard? Mais sont sérieux. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Madame, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre en question aujourd'hui sans remettre en question les déséquilibres fondamentaux. Non, pas du tout.
Et donc vous êtes ferme à l'appel du chef de l'État?
Le chef de l'État...
Mais est-ce que vous n'allez pas vous plaindre après lorsqu'il y aura certains autres partis politiques qui vont aller à ce dialogue?
Madame, nous avons dit non aux concertations nationales. Ça n'a produit que la reproduction des partis par scissiparité. Madame, nous disons non au dialogue. Non pas parce que nous avons des problèmes particuliers avec les uns et les autres. Il y a un consensus sur les règles de jeu. Le président Kabila est fin mandat. Sa responsabilité aujourd'hui, c'est de laisser la postérité, merci, avec un système crédible, d'organiser, de laisser faire les élections de manière transparente et crédible et de faire la remise et reprise avec le nouveau président de la République le 20 décembre 2016. C'est ce qu'on attend de lui.
Merci,
et la Constitution le prévoit.
Merci Jean-Lucien Boussa, professeur Pierre Virgence. Là, on est devant un blocage parce qu'il y a beaucoup de partis quand même de la marge de l'opposition qui refusent de prendre part à ce dialogue convoqué par le chef de l'État. Ça risque de créer encore un blocage et repousser encore, disons, faire freiner l'organisation des élections.
Oui, tout à fait. C'est un vrai problème politique global, hein, parce que, d'une part, je dirais, pour rassurer les partis de l'opposition, ce que le président de la République devrait dire, s'il voulait les rassurer, c'est qu'en aucun cas, il ne briguera un mandat au-delà de décembre 2016 et qu'il ne prolongera pas son mandat au-delà de décembre 2016. Mais s'il dit ça, automatiquement, tous les requins qui sont dans son parti et dans sa majorité iront s'attaquer à lui, et donc il perdra sa force interne. Et donc c'est un vrai problème, effectivement, du président de la République, de savoir comment amener des gens à la table de négociation pour préparer des décisions institutionnelles qui devront être votées éventuellement au Parlement, ou éventuellement qui devront être entérinées par la FENI si son mandat est modifié. Et donc effectivement, il faut, ça c'est clair, on le voit bien, déjà modifier le calendrier électoral puisqu'il est déjà hors délai, donc il faut effectivement travailler là-dessus. C'est un travail politique de confiance, et c'est très difficile de rétablir la confiance dans le contexte actuel du Congo, puisque le président est tiraillé entre une opposition qui a, je dirais, toutes les raisons de se méfier de lui, et une majorité qui a toutes les raisons de se méfier de lui dans le cas où il dit qu'il respecterait la Constitution.
Et la solution serait quoi? Ça sera aussi votre conclusion, professeur.
Je pense que l'appel que le président vient de lancer est un début de solution. Il faudra ramener autour de la table plus de gens possible pour établir de façon crédible un calendrier en disant bien que chacun va respecter les prescrits constitutionnels.
Merci.
Et je rappelle quand même, puisque ça a été mal interprété dans l'émission, que l'article 220 de la Constitution n'oblige pas à ce que l'élection du président de la République soit au scrutin direct. Elle oblige simplement à ne pas changer le nombre et la durée des mandats du président de la République.
Merci,
et
professeur. Merci, professeur. Je suis obligée de vous arrêter. Faute de temps, Maître Jean Brouillot, vous allez aussi conclure. Pourquoi le chef de l'État évite de parler de la fin de son mandat?
Ben écoute, ça c'est... Il n'est pas obligé non plus. Il n'y a aucun texte constitutionnel qui l'oblige.
Pour apaiser les esprits, par exemple, l'opposition qui pense que le chef de l'État voudrait modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir.
Il a déjà dit précédemment, je respecterai la Constitution. Il a déjà dit. Mais personne ne veut y croire. Et pour le moment, il a encore une année de mandat. Personne ne veut croire que lui, il va respecter. Alors...
En conclusion,
je dis... Il fait un acte de bonne foi en disant, écoutez, vous avez réclamé qu'on dise certaines choses, allons-y. Si l'opposition ne veut pas et dit, on n'en veut pas, mais la vie de la nation va continuer, c'est-à-dire, on va suivre le processus, les moyens, dès que les moyens sont disponibles, il y aura élection par la CENI, et donc le monde ne s'arrêtera pas, le Congo ne s'arrêtera pas.
Merci Maître Jean-Lucien Boussard, conclusion.
Donc, je voudrais rappeler au professeur quand même que l'article 220 est clair. Il est interdit de réduire le droit de quiconque dans l'article 220. Par rapport à la conclusion, nous disons non au dialogue. Mais nous rappelons au président de la République que l'article 64 de la Constitution donne le droit à tout Congolais de ne pas respecter ou de s'opposer à toute dérive dictatoriale.
Merci.
Ou à tout changement de la Constitution.
Merci Jean-Lucien, tout ça, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.